Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30,
on est fait pour s'entendre
avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Si la comparaison n'est pas raison, comme le disait Raymond Queneau, la tentation de se mesurer aux autres est bien tenace. C'était l'objet de nos réflexions hier entre 14h30 et 15h30. Pascal Praud, qui était dans ce studio juste avant, a adoré cette émission et elle est justement en replay sur l'application RTL. Nous sommes en direct et c'est un grand entretien que l'on vous propose aujourd'hui jusqu'à 15h30. Vous allez rencontrer dans un instant un jeune homme qui a choisi par son métier de restaurer ce qu'il a quelque part un peu détruit. Akane Marty est aujourd'hui éducateur spécialisé et s'occupe d'enfants maltraités ou abandonnés. Car plus que quiconque, il sait ce que c'est que d'être arraché à une maman défaillante, de passer de bras en bras, de pouponnière en famille d'accueil. Et le nomadisme des enfants placés est aussi affectif que géographique. Et puis quand on a besoin d'être aimé, eh bien on accepte beaucoup. On accepte souvent tout, les insultes, les coups. Car si ce n'est pas une généralité, bien entendu, c'est aussi une réalité de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance dont les insuffisances sont passés sous silence. C'est donc l'histoire d'un petit bonhomme qui a bien grandi. Un petit bonhomme sans famille qui a mené l'enquête et qui a un jour compris que le destin ne faisait que se répéter depuis 3 générations. Bonjour Akane Marty.
Bonjour.
Bon, je disais le petit bonhomme qui a un peu grandi quand même. Hein. Là maintenant, ça me fait plaisir parce que c'est vous hein, en couverture de ce livre.
Ouais, c'est moi, un peu plus jeune.
Beaucoup plus jeune, l'enfant mal placé à Akane Marty, aux éditions Max Milo. Si vous nous suivez sur RTL.fr, voici le livre. Voici donc le portrait d'un petit bonhomme. Vous aviez quel âge là ?
Je devais avoir 10-11 ans à peu près.
Vous en étiez où ? Vous étiez chez Tata ?
C'est ça.
D'accord. Tata qui était donc cette...
La famille d'accueil, celle qui avait l'agrément.
Voilà, Tata et Tonton, qu'un jour vous avez voulu appeler maman.
C'est ça.
Ouais, parce que quand on n'a pas véritablement de maman et de point de repère, à un moment donné, la personne qui est la plus référente en termes d'affection, quand on est petit, on a envie de l'appeler maman. Et en fait, elle vous a répondu qu'elle n'était pas votre maman.
Non.
Hein, et qu'il fallait donc l'appeler Tata.
C'est ça.
Ça va ?
Ouais, ça fait... Ça fait bizarre d'être ici, mais je suis content.
Mais tout va bien se passer. Moi aussi, je suis contente de vous recevoir parce que je l'ai lu, ce livre. Il m'a beaucoup touchée, il m'a beaucoup remuée pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure en dehors de ce studio. Et puis parce que je me dis qu'effectivement, à un moment donné, c'est ce petit bonhomme dont vous racontez l'histoire hein, dans ce livre. C'est aussi un jeune homme qui, un jour, a décidé de réparer les choses. Hein, parce que en fait, vous avez subi, vous aussi, pas mal de choses et vous avez subi des insuffisances que l'on peut retrouver dans les familles d'accueil pour tous ces enfants qui sont placés et qui parfois sont mal placés.
C'est ça. J'ai la chance aujourd'hui d'être éducateur spécialisé et de travailler au sein de la protection de l'enfance.
Ouais.
Donc voilà, on pourrait se dire que je vais réparer quelque chose. Cette notion, elle est importante. Je pense que j'ai voulu, moi, acquérir des compétences justement pour travailler. Et c'est après, en voulant comprendre mon histoire, que j'ai compris ce qui avait pu se passer dans la famille d'accueil et tout ce qui s'y était engagé. Et aujourd'hui, ça me donne encore plus envie de me battre pour tous ces enfants justement qui n'ont pas la parole et qui vivent des choses qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui en France.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille d'accueil ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? Ça a été votre première famille d'accueil, hein ?
C'est ça. En fait, ma mère a été placée dans cette famille d'accueil-là.
Ouais.
Et quand je suis né, ma mère pouvait pas s'occuper de moi, donc j'ai été placé en pouponnière. Et elle me volait dans ces dans les différentes institutions pour me mettre dans la famille d'accueil qu'elle-même avait.
C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez en pouponnière, elle venait vous chercher, elle avait des droits de visite.
C'est ça.
Votre maman qui n'allait pas très bien, hein, qui avait elle-même aussi de grosses choses à porter
en
elle, et qui venait vous chercher dans les pouponnières, faisait passer par un couloir, elle avait son petit bébé dans les bras et elle se taillait.
Ouais.
Elle voulait absolument vous placer dans cette famille d'accueil.
C'est ça. Elle a même écrit un mot pour demander à ce que je sois placé dans cette famille-là. Et donc j'ai vécu dans cette famille de mes 3 mois officieusement à 15 ans. Et je me suis rendu compte que bien après, en allant récupérer mon dossier au sein de l'aide sociale à l'enfance, que j'avais vécu des maltraitances et que j'avais été manipulé. Et que je pensais que c'était une très bonne famille, alors qu'en fait, on en était très loin. Et dans ce qui a pu se passer en très gros, ça a été pas mal de violences physiques. Des coups de poing, des coups de pied, des coups de martinet, des enfermements à la cave, des enfermements à l'extérieur en plein hiver, l'interdiction de manger, ce genre de choses.
Et, des violences psychologiques aussi.
Bah, je suis typé, enfin je suis métisse, je m'appelle Akane, donc j'ai un prénom qui est pas d'origine française, et on m'a beaucoup attaqué par rapport à ça, et sachant que ma mère était issue potentiellement d'une union avec une personne étrangère, en tout cas mon grand-père serait quelqu'un d'une autre nationalité, on m'attaquait par rapport à ça, et donc j'ai eu beaucoup de mal à vivre tout ça. C'était une pression pour moi de m'appeler Akane, de faire face à mes origines, et du coup j'ai mis en place certaines défense pour pas qu'on me questionne là-dessus et qu'on puisse me laisser tranquille.
En fait, je pense que quand on est un enfant maltraité, on apprend à raser les murs. Ça vous dit, ça vous parle, ça?
Ouais.
On rase les murs. On veut pas se faire remarquer parce qu'on veut pas s'entendre dire de par les origines que l'on a. Et je vais me permettre d'employer les mots qui étaient dans la bouche de ceux qui étaient censés s'occuper de vous. Vous étiez le petit bougnoule de la famille. C'est comme ça qu'on vous appelait. Et on rase les murs pour ne pas se faire remarquer parce que, ben, on a peur que les coups pleuvent. Et en même temps, on a l'impression, et c'est à ça qu'on va s'attaquer dans un instant, si vous le voulez bien, dans notre conversation. Je pense que quand on est un enfant comme vous l'avez été, on ne sait pas forcément qu'ailleurs c'est différent et on a l'impression que la vie elle est comme ça.
Exactement, c'est ce qui s'est passé.
C'est ce qui s'est passé. Une prise de conscience, je dirais, tardive de ce que vous étiez en train de vivre, et tout ça parce que vous couriez après une affection, c'est ça. Donc vous ne vous rendiez pas compte, vous aviez le sentiment d'être aimé.
Ouais, c'est ça. Et je pensais que je les aimais aussi. Je pensais que ce qui se passait à la maison était normal. Mais si j'en parlais pas à l'extérieur, je pense qu'il y avait quelque chose qui, du coup, n'allait pas. Et je me sentais redevable par rapport à cette famille qui avait fait aussi des choses pour ma mère et qui me considérait aussi comme un peu le petit homme de la maison. Donc, voilà. J'étais vraiment dans un monde bien particulier. Ouais.
Allez, on va se retrouver dans un instant. Là, vous êtes bien? C'est bon, vous avez pris votre souffle et
la
tout.
La température est bonne.
Tout
vous
roule.
Êtes sympa.
On va vous servir un verre d'eau. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. Vous allez entendre l'histoire d'Akane Marty, mais qui ressemble à celle de tant d'autres, hein. Et tous ces autres que vous avez décidé aussi, vous, d'aider, en vous engageant, auprès de ces enfants abandonnés et maltraités. On se retrouve tout de suite parce que on va parler de choses lourdes aujourd'hui, hein, qui nous remuent, mais en même temps d'un parcours lumineux. Il suffit de vous regarder maintenant, quoi. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Et à propos d'amour, justement, comment est-ce que l'on grandit lorsque l'on recherche l'amour dans des bras qui ne sont pas toujours les plus accueillants? C'est un petit peu l'histoire d'Akane Marty, notre invité pour ce grand entretien aujourd'hui, jusqu'à 15h30 sur l'antenne d'RTL. Akane, il est l'auteur d'un livre, Enfant mal placé, aux éditions Max Milo. Je vous le disais, c'est l'histoire d'un jeune homme qui un jour a mené l'enquête et s'est rendu compte que vous êtes un petit garçon sans famille, quoi. Mais votre mère, votre grand-mère ont été elles aussi placées. C'est dire qu'il est difficile de pouvoir ouvrir un chemin lorsque l'on démarre cabosser comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis hyper émue parce que vous savez que ce sujet me touche aussi. Donc voilà. Mais je me dis que voilà, c'est un destin qui se répète. Donc c'est bien la preuve qu'à un moment donné, on n'a pas assez accompagné ces femmes qui vous ont précédé.
Ah, ça, on est d'accord, oui. Bah, parce qu'au final, c'est là, je me rends compte de l'héritage qui m'a été donné à mes frères et moi. Donc c'est un peu, je trouve ça très lourd. Après,
vous avez tous été placés. Hein.
On a tous été placés. On est cinq et tous dans des familles d'accueil différentes.
Ouais.
Voilà. Après. Bon, j'ai compris l'histoire et je comprends que chaque personne de la famille a son parcours bien particulier. Là où je me questionne, c'est simplement qu'ils ont été accompagnés justement par les professionnels et qu'on n'a pas réussi à couper ce lien.
Cette malédiction, cet héritage pourri du placement, quoi.
Exactement. Je le dis souvent à mon entourage, mais il y a plein d'enfants qui vont hériter d'une maison, d'une voiture, d'amour même.
Ouais, bah ouais, voilà, parfois on hérite d'amour, oui, pareil, ouais.
Et nous, on n'a pas eu ça, nous. Non, on a eu un autre héritage qui est le placement au sein de la protection de l'enfance. Et c'est pas un des plus faciles à porter.
Est-ce que vous avez écrit justement ce livre à Cannes pour être le maillon qui casse la chaîne? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai, voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Je me suis dit, tiens, il a envie de pousser autrement. Et c'est peut-être en disant ces vérités-là aussi, sur le placement, sur votre placement, parce qu'on va le dire, hein, il se passe parfois de très jolies histoires aussi, hein, à l'aide sociale à l'enfance. Mais en tout cas, sur votre placement, est-ce que vous avez ce sentiment qu'en déballant cette vérité, en disant les choses telles que vous les avez vécues, bah, quelque part, vous vous donnez l'occasion de pousser différemment, de grandir différemment de votre mère et de votre grand-mère.
Il y a un peu de ça, oui, justement, de faire une grande différence et de dire à un moment donné stop, on va pas continuer dans cette optique, dans cette démarche. Et puis le livre, bon, j'ai mes objectifs plutôt professionnels pour essayer de changer la protection d'enfance et personnel justement pour pouvoir mettre notre nom qui a été tant décrié. Ben voilà, un peu en haut et dire à mes frères et sœurs, regardez, on peut réussir. Et puis dire à tous ces gamins qui sont placés, des fois, même si la société, elle est difficile avec nous, quand on fait de belles rencontres et de bonnes rencontres, et quand on a envie, qu'on croit en nous, on peut vraiment réussir. Donc voilà, c'est l'objectif un peu de ce livre.
Bon, vous avez commencé votre vie à Cannes avec déjà pas mal de choses dans le sac à dos, hein, des choses lourdes, hein, pas de parents présents, la pouponnière, l'arrachement de bras en bras, ensuite cette famille d'accueil qui était une famille d'accueil défaillante, hein, on peut le dire très clairement, c'est ce que vous nous expliquez il y a un instant. Et aujourd'hui, vous faites un constat, c'est quoi ? C'est de chemin de solitude. Est-ce que les enfants de la ZEU, à un moment donné, sont des enfants que l'on laisse sur le bord de la route ?
C'est une belle question, ça. Je pense que oui et non. Je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui se démènent pour réussir à donner justement un objectif de vie à tous ces gamins, mais le système aujourd'hui fait que je pense que pour une bonne majorité, enfin c'est pas je pense, c'est que c'est une réalité, bah l'avenir est plutôt sombre et plutôt compliqué pour ces gamins là donc ouais.
Parce que quoi, on aura loupé le coche à un moment donné d'un accompagnement, d'un soutien, on va pas leur montrer un chemin, vous le dites, hein, à partir d'un certain âge les enfants, les trois quarts se retrouvent à la rue.
Je sais pas si je peux me permettre de prendre mon histoire en exemple, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on entende justement tous ces enfants ou anciens enfants qui puissent dire ce qu'ils ont vécu, parce que leur parole est importante. Mais moi, dans mon histoire, j'ai la ZEU qui a disparu pendant un certain temps. J'étais dans une famille d'accueil qui était maltraitante et les professionnels extérieurs, normalement, qui auraient dû justement me soutenir et le voir, ne l'ont pas vu. Alors, j'ai créé des choses qui, du coup, ont un peu brouillé les pistes. Et puis, à la fin, j'ai rencontré des éducateurs qui m'ont énormément apporté. Je les remercie aujourd'hui, hein, pour tout ce qu'ils ont fait. Je continue à aller les voir parce qu'ils sont importants. Mais voilà, l'aide sociale à l'enfance m'a dit après le bac, tu nous coûtes trop cher, c'est terminé. Voilà.
Et c'est comme ça que ça se passe.
Et c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, les trois quarts de la France, on peut regarder, c'est qu'il n'y a plus de contrat jeune majeur. Enfin, il y en a encore quelques-uns de 3 mois et encore, il faut répondre à des critères. Alors, il y a quelques départements qui se battent encore pour pousser l'accompagnement, mais ça reste très compliqué de pouvoir en avoir un.
On va se retrouver dans un instant à Cannes, on va poursuivre notre conversation. Et puis après, c'est Fanny Cohen-Herlem, elle est pédopsychiatre, psychanalyste. Elle travaille dans la protection de l'enfance, elle nous rejoindra dans la deuxième demi-heure de cette émission. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Akane Marty est avec nous. Il y a Hildegarde qui nous écrit à Cannes. Il y a des familles d'accueil pourries. Alors aujourd'hui, on parle du parcours d'Akane, hein, bien précisément. Akane, petit garçon élevé dans une pouponnière, puis dans une famille d'accueil défaillante. Il est donc des familles d'accueil pourries, nous écrit Hildegarde. C'est vrai, mais il y en a d'autres aussi qui sont formidables, qui vous permettent de grandir sans danger, de devenir quelqu'un d'assuré et de confiant. Placé pendant 17 ans, je ne peux dire que merci à Marie-Claude et à Roger. Sans eux, je ne serais pas là. Voici la gratitude et la reconnaissance d'une personne dite bien placée, puisque on peut considérer que vous avez été mal placée. En tout cas, c'est le titre de votre livre, Akane Marty. Vous ne faites pas une généralité de votre histoire ?
Non, pas du tout.
D'accord, mais vous avez quand même à un moment donné voulu étudier, puisque vous y êtes investi, le système de la protection de l'enfance en France.
Bah oui, parce que j'ai croisé du coup par mes placements pas mal de jeunes qui ont été placés avec moi et du coup ça m'a questionné. Ensuite j'ai été amené à faire le métier d'éducateur spécialisé. Donc j'ai eu la double casquette et le double regard. Et en échangeant avec tous mes collègues sur justement le destin de tous ces enfants et en repensant à tous les enfants que j'ai pu croiser, ouais, ça m'a questionné. Et puis ça m'a donné envie de pouvoir dire des choses.
Alors ces choses que vous vouliez dire, c'était quoi ?
Alors, des choses à améliorer et des choses, des remerciements. Les remerciements, c'est pour toutes les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont soutenu et qui m'ont apporté, qui m'ont permis de pas être à la rue parce que l'aide sociale à l'enfance s'est arrêtée très tôt pour moi. Et donc, ces personnes-là, ont été bien présentes et je les remercie énormément et c'est aussi pour eux que je fais ce livre. Et l'autre chose, c'est pour l'aide sociale à l'enfance, tirer un peu le signal d'alarme où on va laisser des jeunes sans situation très rapidement. On va leur demander de porter une charge mentale super lourde. Je suis désolé, je m'exprime pas très bien. Mais...
Si, c'est très très clair. Vous avez déjà tellement de choses à porter d'un point de vue personnel, une histoire personnelle tellement douloureuse et tellement lourde. Qu'on vous demande en plus ?
C'est ça. En fait, j'ai cette impression en protection de l'enfance et je fais pas une généralité, mais ce que j'en ressens quand je vois ce qui se passe dans les mecs où on va mettre 10 à 12 gamins en même temps qui portent déjà leur histoire familiale et qu'on les met tous ensemble alors qu'ils ne vont pas bien, c'est déjà très lourd, c'est questionnant. Parce que qu'est-ce qu'on leur fait vivre à ces enfants avec des professionnels qui tournent régulièrement parce que on a des problématiques avec ce métier en ce moment. Et c'est derrière leur demander à 15-16 ans de déjà quasi être autonome pour qu'à 18 ans, on leur dise stop, c'est fini, tu sors de la protection de l'enfance et tu te débrouilles.
Donc sortir de la protection de l'enfance, c'est ne plus avoir le moindre argent, le moindre moyen de pouvoir construire sa vie.
Aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que c'est les départements qui financent justement les contrats jeunes majeurs, c'est pas l'État. L'État ne gère plus tout ça. Et certains départements continuent à accompagner les jeunes jusqu'à 21 ans. Il y a même un département qui va jusqu'à 25 ans. Donc
ce contrat jeune majeur, il faut préciser que c'est un moyen, effectivement, à un moment donné, de travailler et d'avoir un revenu et d'accompagner finalement des jeunes sur le chemin de la vie professionnelle.
C'est ça. C'est pas simplement de donner de l'argent à un jeune et qu'il en fasse n'importe quoi. C'est l'accompagner à justement savoir gérer un appartement, savoir gérer son alimentation, savoir gérer ses recherches.
Sur la
d'études.
Vie de l'autonomie, quoi, en fait.
Exactement. C'est qu'en fait, il puisse s'insérer. C'est parier sur lui, au final. Parier sur un jeune qui va s'insérer et qu'on ne va pas retrouver un peu plus tard sur d'autres structures qui ne lui permettra pas d'être autonome et qui coûtera aussi de l'argent à l'État. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et là où je suis assez inquiet, c'est que j'ai eu la chance de travailler dans différents départements et que je vois qu'on laisse ces jeunes et qu'on leur dit stop, c'est terminé. Et
donc tu ne fais plus partie, on ne te protège plus.
C'est terminé, oui. En fait... L'État se désengage totalement. Enfin, on laisse ces jeunes sans plus personne, sans accompagnement professionnel. Et je le vois, ça fait du mal aux jeunes, ça fait du mal aux professionnels qui se démènent justement pour essayer de trouver des solutions, mais au final, on en revient pareil. Et ça fait des dégâts derrière. De lourds dégâts, au final.
On en parlera évidemment tout au long de cette émission. Comment est-ce qu'on se construit affectivement à Cannes ? Quand on a été, pour ceux qui nous écoutent, pour bien comprendre ce que c'est que de se retrouver lâché à 18 ans, quand on n'a déjà pas grand chose.
Dans mon cas, ça a été plutôt difficile. Je me suis nourri des rencontres que j'ai faites. C'est les rencontres amicales, c'est les rencontres amoureuses, c'est les rencontres familiales que j'ai faites. C'est ces personnes-là qui m'ont accueilli sans.
Parler d'une famille de cœur.
C'est ça. Et alors moi, j'en ai pas une, j'en ai trois.
Donc, c'est bien.
J'ai eu cette chance. Mais c'est des personnes qui m'ont accueilli sans même regarder qui j'étais, sans même regarder l'étiquette d'enfant placé, qui m'ont regardé comme un enfant, un adolescent. Et c'est ces personnes-là qui m'ont permis de me nourrir de ce qui me manquait réellement.
Est-ce qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va aller ?
T'es pas mal en termes de questions.
C'est un peu mon métier depuis quelques années, quoi. J'essaye. Non, mais parce que je m'interroge, me dis, tiens, on démarre parfois, on est tous un peu boiteux, ou certains d'entre nous le sont, mais est-ce qu'on a besoin de comprendre ce qui s'est passé avant nous pour savoir, à un moment donné, s'emparer de ça, le mettre derrière et avancer ?
pareil, je veux pas me permettre de parler pour tous ces enfants, mais en tout cas de mon côté et de ce que j'en vois de mes frères et sœurs, je vais dire oui.
Oui, on a besoin de mener l'enquête.
C'est ça. Qui a pas été simple. On a appris énormément de choses. On s'est questionné, on s'est remis en question, mais au final, aujourd'hui, on comprend où ça a péché dans notre famille. Et je pense qu'on a les réponses pour ne plus reproduire le même schéma.
Et ces réponses, elles sont aussi du côté de l'accompagnement et de l'aide sociale à l'enfance.
Aujourd'hui, oui.
Oui.
Réellement, oui.
On va se retrouver dans un instant. Il y a Olivier Bois qui vient de rentrer dans ce studio. On va après faire un petit flash info et puis on va se retrouver tout de suite sur l'antenne d'RTL. Tiens, on va sûrement parler de Donald Trump parce que ça y est, apparemment, il quitte la maison pour l'enchaîner. À tout de suite sur RTL.
Ça vit flamand sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Voilà, alors c'est un livre, je dirais, lourd de... dans son histoire, mais en même temps lumineux. Enfant mal placé à Cannes-Marty, que vous retrouvez donc aux éditions Max Milo. C'est l'histoire d'à Cannes, mais c'est bien souvent aussi l'histoire de beaucoup de jeunes enfants qui se retrouvent placés dans des familles d'accueil. Donc c'est l'aide sociale à l'enfance. Alors, pour ceux qui effectivement ne savent pas de quoi il s'agit, ce sont des familles qui parfois sont composées d'un père, d'une mère, de plusieurs enfants et qui vont accueillir de façon temporaire ou de façon plus, non pas définitive, mais en tout cas sur le long terme, des enfants dont les parents ne peuvent pas s'occuper d'eux, dont les parents sont en proie à de grandes difficultés pour les élever. Et ça a été votre cas à Cannes-Marty. Vous êtes resté très longtemps dans cette famille, peut-être, pardonnez-moi de le dire comme ça, trop longtemps, puisque vous avez pris conscience aussi que ce que vous viviez au sein de cette famille n'était pas normal, mais comme vous n'aviez pas forcément de point de comparaison, vous pensiez qu'effectivement l'affection parfois aussi devait se mériter, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on est capable d'entendre des insultes et de recevoir des coups dans ces cas-là. Mais par ailleurs, pour se dire aussi qu'on est, on reçoit de l'affection, on est aimé en retour, c'est très étrange, c'est une sorte d'affection conditionnée, hein. Il fallait filer droit, quoi.
C'est ça. Il fallait répondre à certains critères pour pouvoir être aimé.
Voilà. Ces familles d'accueil, elles sont rémunérées.
Oui.
Pour s'occuper des enfants.
C'est ça. Elles ont des agréments.
Elles ont des agréments. Agréments que l'on doit obtenir en passant donc devant un comité, j'imagine, à l'aide sociale à l'enfance. Donc ces familles ont le droit, à un moment donné, de s'occuper d'enfants qui sont malheureux. On n'a pas le sentiment non plus qu'on ait fait montre de beaucoup d'accompagnement psychologique à votre endroit quand vous étiez petit à Cannes, quand on lit votre livre. Vous avez mené l'enquête, il y a des rapports que vous fournissez, des rapports de l'aide sociale à l'enfance, qui décrivent une histoire complètement différente de celle que vous viviez dans cette maison.
Il y avait un fossé entre ce que pouvaient voir les travailleurs sociaux qui venaient de temps en temps à la maison et puis la réalité de ce que je pouvais vivre. Alors quand j'étais petit à l'école, j'avais un suivi avec un psychologue que j'ai d'ailleurs retrouvé quand j'ai été récupérer mon dossier à l'aide sociale à l'enfance, qui est plutôt... cocasse comme situation, j'avais des petites techniques que j'avais montées pour protéger cette famille, parce que j'étais conditionné, donc fallait que je protège cette famille. On me disait que si je racontais ce qui se passait, on allait mettre dans une famille d'accueil qui allait être beaucoup plus violente, ou alors en foyer, qu'on allait me battre. Enfin, on me racontait ce que je vivais à la maison d'ailleurs. Et ce psychologue, pour détourner un peu son attention, je dessinais des dessins très lumineux avec des soleils, ce genre de choses. Et je savais qu'en faisant ces petites choses, il allait rien se douter. En tout cas, c'est ce que je m'imaginais dans ma tête d'enfant. Aujourd'hui, je me questionne quand même, mais voilà.
Vous vous dites qu'on aurait dû, à un moment donné, poser un autre regard aussi sur vous, et on aurait dû être alerté par certains signes.
Il y a plusieurs choses qui se sont passées aujourd'hui qui m'ont vraiment un peu, je vais pas dire déstabilisé, mais questionné. Premièrement, il y a ce psychologue qui aurait été censé, enfin en tout cas, je l'aurais espéré, voir des choses. J'ai eu une travailleuse sociale qui a vu certaines punitions, qui a demandé d'arrêter sur le moment. Mais
un jour est arrivé et vous étiez puni. Hein. Vous étiez dans un coin du salon.
Et il n'y a pas eu de suite. Il y a une information préoccupante qui a été faite où nous, on nous a briefé sur ce qu'on devait dire et il n'y a pas eu de suite. Et quand, bien plus tard, j'ai fait les recherches par rapport à toute cette histoire et que j'ai rencontré l'inspectrice de l'aide sociale à l'enfance, elle m'a dit « Ton histoire est celle qui m'a le plus marqué dans ma carrière ». Quand quelqu'un qui représente l'aide sociale à l'enfance, ses responsabilités, ses devoirs, te dit ça, ça te remue forcément. Tu te dis, mais il y a eu un loupé, quoi. Il y a eu quelque chose. Pourquoi ? Pourquoi personne n'est intervenu ? Pourquoi personne n'a agi ? Même les voisins, même tous ceux qui nous ont vus, tous ceux qui nous ont côtoyés à l'école, pourquoi
et
ça
peut
être plus loin ?
Et puis qui assistaient parfois aussi à des...
Ah oui.
qui assistaient à des violences.
C'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, je suis pas là pour réellement leur taper dessus en disant c'est de votre responsabilité, parce que j'aurais pu parler, j'aurais dû parler, mais je suis plus là aujourd'hui avec un œil, un autre œil d'ancien,
plus
d'ancien
professionnel,
enfant
je dirais
plus professionnel,
aussi.
Pour essayer de faire changer les choses et qu'enfin on puisse entendre, écouter tous ces enfants qui ont besoin qu'on soit là pour eux.
Alors dans un instant, on va écouter Fanny Cohen-Herlem qui va nous donner votre point de vue. Elle a lu votre livre et elle a envie de parler de votre métier à vous, hein, éducateur spécialisé, tous ceux qui s'investissent justement pour que ces jeunes ne se retrouvent pas sur le bord de la route. Elle sera avec nous dans un instant sur RTL. On la remercie pour sa patience.
Sa vie flamand sur RTL.
Alors, il y a José qui se sent concerné par notre sujet du jour. Il nous écrit « Il existe de bonnes familles d'accueil et j'ai eu beaucoup de chance de tomber justement sur l'une d'entre elles. » Adrienne qui, elle, nous explique qu'elle a été placée en foyer très jeune, que ses enfants ont également été placés durant 2 ans dans une famille d'accueil, qu'elle s'est battue pour les récupérer, mais le mal était fait puisque sa fille avait subi une agression sexuelle. Et bien évidemment, la famille a perdu son agrément. Monique qui s'interroge « Mais comment est-il possible que de telles familles d'accueil soient agréées ? Il y en a certes de vermeilleuses, mais ce garçon, ce qu'il a vécu, c'est inadmissible. » Ce garçon, c'est notre invité, à Cannes Marty. Vous avez des nouvelles de vos frères et sœurs qui eux-mêmes ont été placés à Cannes ?
Oui. On a une relation qui est un peu particulière parce qu'on n'a pas grandi ensemble.
Mais
et
oui,
quand on
sûr.
Se voyait, c'était 3 à 4 fois par an où on était dans une salle et des travailleurs sociaux prenaient des notes. Et aujourd'hui, on essaye de reconstruire des liens. Alors, c'est compliqué, mais
bien sûr.
Cette histoire, elle nous lie et je suis persuadé que pour l'avenir, on va réussir à se trouver et se retrouver.
Est-ce que même on a vécu des parcours difficiles ?
Ouais. Alors, j'ai 3 frères et sœurs. Je suis fier d'eux parce que, voilà, avec tout ce qu'ils ont vécu, c'est des personnes qui sont courageuses, mais
bien
qui
sûr.
Ont eux aussi vécu des choses dues à la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, ça reste difficile parce qu'on les a pas assez bien accompagnés ou parce que justement, ça a été injuste pour certains d'entre eux ce qu'ils ont vécu et parce qu'on les a pas écoutés.
Fanny Cohen-Herlem, bonjour. Merci pour votre patience, Fanny.
Bonjour Flavie, merci de m'accueillir. Bonjour Akane Marty.
Bonjour.
Vous avez eu le livre d'Akane entre les mains.
Absolument, je l'ai lu.
C'est difficile parce que c'est un livre très complet et en même temps qui met en lumière tellement de choses qu'elles sont difficiles. On pourrait parler d'un parcours, le nomadisme affectif de ces enfants-là et la façon dont ils essayent de se construire et de se construire malgré tout. Hein. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette lecture, Fanny ?
Alors j'ai retenu, c'était quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. Donc c'est quand même important de le dire et je trouve que la position de la Cannes Marty est une belle position actuellement. Éducateur spécialisé, il travaille finalement pour le bien-être des enfants par rapport à ce qu'il a pu vivre lui en le mettant à distance et je trouve que c'est un beau témoignage. Qui montre aussi la complexité du travail de toutes les personnes qui sont en protection de l'enfance, parce que on écoute la parole de l'enfant, mais on voit bien que la parole de l'enfant parfois elle est pas elle est pas juste au sens où l'enfant ne dit pas ce qu'il vit vraiment. Donc il faut aller bien au-delà.
Tout enfant maltraité, hein.
Eh mais bien sûr, bien sûr. Donc il faut aller bien au-delà de cette parole explicite pour essayer de trouver des signes implicites, et ce qui n'a pas été fait. Donc je trouve ça intéressant qu'il puisse aussi dire quelque chose de la relation tellement problématique et ambivalente, ambiguë qu'il a eue avec sa famille d'accueil. Et on sait bien que c'est, on peut avoir des parents même biologiques maltraitants, les enfants les aiment quand même parce que ce sont leurs parents. Donc là, il avait que cette famille, donc il l'aimait quand même, j'ai envie de dire, bien qu'elle soit maltraitante, il faut du temps, effectivement, pour se rendre compte.
Alors du temps pour le réaliser à titre personnel, effectivement peut-être des défaillances liées à beaucoup de choses qu'on ne pourra pas forcément étudier ni aborder dans cette émission du côté de l'aide sociale à l'enfance et en même temps ce que fait Akane c'est s'emparer de ce drame, je dirais, et de ce parcours difficile pour transformer les choses. Est-ce que la résilience passe par là ?
Oui, c'est une bonne question. Alors moi, je suis pas. Ça fait longtemps que je travaille en protection de l'enfance.
Oui, je sais.
En particulier en AIMO, en AED. Avant, j'étais ailleurs. Donc, ça peut passer par là, à condition, comme me semble-t-il à Cannes, Marty le fait, c'est-à-dire de prendre la distance nécessaire, c'est-à-dire de ne pas projeter sur les enfants que l'on suit sa propre histoire, se servir plutôt de sa propre histoire qu'on a élaborée pour pouvoir en faire des outils de travail, justement, et pouvoir être en empathie avec les enfants, mais pas, effectivement, pas projeter son histoire. Donc ça, c'est important. Maintenant, pour que ça change, ben, vous savez, je crois qu'il faut d'autres choses. Moi, je suis bien passée pour le savoir. C'est-à-dire que même au Conseil national de protection de l'enfance, il y a beaucoup de choses qui se font, ben, il n'y en a jamais assez. Mm-hmm. Il y a des questions, pardonnez-moi, je vais juste dire ça, il y a des questions de budget.
Hein, mais si, mais il y a un vrai problème, bien sûr.
Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème politique que de savoir s'occuper des enfants en général et des enfants placés en particulier et d'essayer d'éviter les placements au maximum quand on peut avec tous les outils de protection qu'on a par ailleurs. Mais c'est vraiment une question politique.
Alors, on va y revenir dans un instant parce que parce que c'est une réalité. Hein. D'ailleurs, c'est bien évidemment ce que l'ASE doit avancer hein, comme bien explication, sûr, sinon comme excuse, mais en tout cas comme explication à ce genre de situation qui sont des cas qui existent, hein, qui sont mais qui ne sont pas peut-être majoritaires. On va se retrouver dans un instant, Fanny Cohen-Erlem, parce que justement, vous parliez de ces alternatives au placement et ce sont ces éducateurs hein, spécialisés dont fait à Cannes dont le rôle vous touche particulièrement. On va en parler dans un instant. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Alors, des messages qui nous arrivent. On remercie d'ailleurs tous nos auditeurs. Nico qui nous parle des tiers dignes de confiance. J'écoute actuellement votre émission qui me touche beaucoup. Nous sommes parents de 8 enfants et depuis 5 mois, nous accueillons une petite fille de 12 ans. Nous sommes tiers dignes de confiance. Ce statut est encore trop peu connu et peut vraiment changer la vie des enfants. On s'est dit avec mon épouse que si on avait de la place pour 8 enfants, eh ben, il y en avait aussi pour 9. Merci pour votre émission. Merci à vous pour votre message. Alors, Fanny Cohen-Erlem, éducateur spécialiste. En fait, est-ce que les enfants placés ont toujours le même parcours ou est-ce que l'on peut se tourner vers d'autres personnes qui, à un moment donné, vont permettre aux enfants de mieux se construire ?
Alors, comment dire ça ? Je crois que oui, c'est compliqué. Hein. Vous évoquez le nomadisme affectif. Je crois que ce qui est important, c'est que les enfants ne changent pas tout le temps de lieu de vie, que ce soit dans leur famille d'accueil ou dans leur famille. Maintenant, il peut y avoir des familles en très grande difficulté. Les aides éducatives en milieu ouvert sont là pour ça, hein, la demande du juge, pour aider ces familles à changer leur façon de faire, pour aider les parents aussi, qui sont reçus par les éducateurs, par les psychologues, par les pédopsychiatres, les psychiatres. Les enfants sont aussi aidés. Alors sûrement de façon pas assez intensive, mais ça c'est une question de moyens et de personnel, bien entendu. La question du tiers digne de confiance, c'est autre chose. Effectivement, c'est quand un enfant peut pas vivre dans sa famille pour des raisons X, Y ou Z, il peut y avoir une personne qui est nommée par le juge hein, et qui a certaines prérogatives par rapport à l'enfant. Donc ça peut être tout à fait intéressant parce que c'est une espèce de placement familial, mais dans une famille connue, chez une personne connue, en général que l'enfant connaît et les parents aussi connaissent. Donc c'est encore autre chose. Je crois que l'idée surtout c'est d'aider les familles en très grande difficulté, qu'elles soient psychologiques ou sociales, à pouvoir fonctionner comme des familles. Mais il y a des familles qui peuvent pas.
Non.
C'est pas de leur faute. Hein, on va pas jeter la pierre. Il y a une misère psychologique, une misère sociale telle que c'est trop compliqué pour eux. Et donc à ce moment-là, les enfants sont placés. Mais c'est évident qu'il faut que les familles soient suivies, que les familles où les enfants sont placés soient suivies.
Voilà, les familles d'accueil, aussi. Que les familles d'accueil soient suivies.
Bien sûr, il y a aussi les petites institutions, il y a aussi tiers dignes de confiance.
Parce que, pardon de le dire comme ça, hein, je suis désolée, mais il y a des familles qui gagnent. Il faut bien préciser que les familles d'accueil sont payées pour ça. Hein.
Oui,
donc,
absolument.
Il y a ceux qui font ça avec cœur et l'envie d'accompagner des enfants en souffrance. Et puis il y a ceux qui font ça parce que c'est une bouche à nourrir parmi d'autres dans une fratrie et qui vont pouvoir percevoir des revenus.
Oui,
mais ce que je veux dire, c'est que pour obtenir un agrément, il faut peut-être déjà s'assurer de la volonté et de la sincérité dans la. J'ai du mal à trouver mes mots, pardon, le sujet me touche, mais de la sincérité.
Dans
l'engagement.
Le choix de faire ça.
Mais oui,
de
bien sûr.
Bien sûr,
parce que ça reste un moyen
de. Oui, ça reste un moyen de vivre.
C'est un métier,
ça s'apprend. Je veux dire, je pense qu'il faudrait peut-être une formation plus importante pour les gens qui veulent être familles d'accueil et du coup qu'ils soient mieux payés. Parce que c'est un vrai métier, ça s'improvise pas, si vous voulez. On ne peut pas. C'est très bien l'engagement, mais ça n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut vraiment la formation. Et
c'est comme pour tous les professionnels.
On est d'accord, à Cannes, si je peux me permettre de vous parler de prénom.
Voilà, on a des formations qui sont quand même des fois un peu légères. Alors je jette pas un caillou dans la mare, mais je sais pas si c'est l'expression. Mais voilà,
c'est un pavé dans la mare ou un caillou dans la chaussure, comme tu veux. On se comprend. Non, mais c'est vrai, ça reste effectivement un métier et ça n'est pas parce qu'on a élevé ses propres enfants et parfois qu'on a été défaillant avec ses propres enfants que du coup on peut accueillir un enfant de.
Non.
Qu'est-ce que vous dites à Cannes, Marty ?
Non, mais je suis d'accord.
Ça fait partie. Vous êtes d'accord sur le manquement de ce côté-là ?
Exactement. Voilà.
Oui, parce que si vous voulez, vous vouliez me questionner sur le nomadisme affectif, la vie, je peux.
Oui,
je peux
aussi.
Me permettre de
je vous en prie, pardon, parce que du coup, on est parti sur le débat.
Oui, le débat quasiment politico-sociétal. Donc,
oui, mais qui explique la situation aussi.
Qui est important à prendre en compte.
Non, mais à mon avis, il est fondamental. Hein. On est tout à fait d'accord. Je crois que j'ai dit quand même ce que je pensais par rapport
Absolument.
À ça, et je crois qu'à Cannes, Marty et moi, on est probablement d'accord. Sur le salaire des éducateurs, sur le fait qu'ils ne doivent pas avoir 30 enfants dont ils doivent s'occuper, sur le fait qu'il faudrait qu'ils aient plus de temps, que les équipes soient plus fournies et qu'il y ait une meilleure formation. Voilà.
Alors, sur le nomadisme, pardon.
Alors, le nomadisme, si vous voulez, moi, je me dis qu'effectivement, un enfant qui est placé de structure en structure ou de famille en famille, ce qui est problématique pour un enfant, c'est la rupture. Et c'est ce qu'on lui dit au moment de la rupture, au moment de la séparation. Ces enfants ont été séparés de leur famille une première fois, de leurs parents biologiques, on va dire, hein, leurs parents. Est-ce que quelque chose aura été dit ? Est-ce qu'on leur a expliqué, quel que soit leur âge, pourquoi on les séparait de leurs parents ? Est-ce qu'on leur a dit à quel rythme ils allaient les revoir ? Donc tout ça, ça me paraît fondamental dès le début. Bon, il y a des placements en urgence, hein, on le sait bien, Cannes Marty le sait, moi aussi, mais ça n'empêche pas qu'on peut se parler, qu'on peut dire les choses. Et puis, si on doit changer de famille d'accueil pour une raison ou pour une autre, ou passer d'une famille d'accueil à une institution ou l'inverse, il faut encore que les choses soient expliquées aux enfants, quel que soit leur âge. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une continuité, un récit comme ça, de l'histoire de l'enfant qui doit lui être faite, où on doit lui rendre compte de ce qui lui arrive. Ça me paraît fondamental.
Alors,
du coup, il peut nouer des liens avec les gens qui vont s'occuper de lui. Parce que il sait ce qu'il a quitté, pourquoi il les a quittés, et il peut renouer d'autres liens. C'est-à-dire, c'est vraiment la question de la confiance.
De la compréhension et de la confiance. Fanny Cohen-Erlem, pardon, le temps file terriblement. Je voudrais citer votre livre, L'adoption en question et les questions des enfants adoptés. C'est aux éditions Pasca. Je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps, Fanny Cohen-Erlem. Je vous embrasse. Merci beaucoup à vous.
Merci à Cannes Marty pour ce beau livre.
Alors, beau livre, ça s'appelle donc Enfants mal placés. C'est aux éditions Max Milo à Cannes. Je te souhaite le meilleur et je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
Merci. Et un petit coucou juste à mon équipe d'AEMO et à Damien Donat qui m'écoute aujourd'hui.
Le message est passé. On est très en retard. Je vous dis à demain 14h30 sur RTL. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL.
Salut, c'est Vincent Perrault.
RTL Pop Ciné.
Je vous attends tous les dimanches dès 14h pour RTL Pop Ciné. Des jeux, des interviews, des chansons de films pour tout savoir de l'actualité cinéma.
RTL Pop Ciné, présenté par Vincent Perrault, dès maintenant en replay sur RTL.fr.